Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour et bienvenue à tous sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le vendredi 28 juin et à mes côtés, celles qui chaque matin me font dire... Céline D'Acosta et Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on va commencer par un mot de la météo, Céline, qui nous attend parce que déjà hier on a eu du mal à se protéger de la chaleur, mais alors aujourd'hui la canicule arrivant à son pic dans plusieurs départements risque d'être carrément désemparée devant la vague de chaleur.
Mais alors autant dealer de la drogue ou se prostituer et reverser l'argent directement à une association.
C'est une option Céline, mais sinon vous pouvez juste vous contenter de nous donner la météo.
Mais très chaud, avec 4 départements en vigilance rouge, c'est la première fois que ça arrive, on en parlera, c'est dans le sud-est que ça se passe évidemment. Et puis pour les autres, là aussi très chaud, 76 départements qui restent en vigilance orange. Ça vous donne un petit peu une idée de la journée qui nous attend.
Effectivement. Au fait, Céline, je tenais à vous féliciter ce matin pour votre belle saison. Ce n'était pas évident de prendre la suite de Julie, la célèbre voix d'Europe 1, qui d'ailleurs est toujours là, à partir de 8h40 c'est avec Nicolas Canteloup, c'est vrai aussi. Julie qui aurait pu vous snobber, pas du tout, elle vous kiffe. Et elle sera toujours pour vous dans cette radio en soutien indéfectible.
Quand je serai patronne, quand j'aurai racheté Europe 1 d'abord et quand je serai patronne, il y aura quelqu'un à la pub qui relira tous les messages avant de les diffuser et on les fait refaire s'il y a une faute.
Bah, si c'est moi, tu me payes quand même.
Si je te paierai toi, je te vire surtout.
Non, mais...
Bonne chance Céline.
Merci, c'est sympa.
Pour nous accompagner également, celle qui a remplacé Varo Copy-Élevé lorsque cette dernière nous a annoncé...
Joannis, c'est 50 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. Et ils sont pas au courant qu'on vient.
Oui, vous avez bien compté, chers auditeurs fidèles. Ça fait déjà 5 fois cette année qu'elle fait une surprise à ses parents pour leur anniversaire de mariage. De là à penser qu'elle me prend pour une buse. Il n'y a qu'un pas que je franchis. Bref, heureusement, Anne Le Gall, 5, 4, 3, 2, 1.
Hey, zéro.
Vous êtes là.
Je suis là.
Et ça, c'est bon. Une question à poser à nos auditeurs.
C'est l'anniversaire de Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui. Le philosophe écrivain
c'est
est
juste.
Né le 28 juin 1712, il y a 309 ans, donc à Genève. Alors, on en profite
pour faire des confessions.
Voilà, pour nourrir notre esprit, quelle est votre citation philosophique préférée? C'est la question du jour. On attend vos réponses avec le hashtag Europe 1.
28 juin, on souhaite également un joyeux anniversaire à la Annie préférée des Français, incontestablement. Oui,
c'est Anne. Annie Cordy.
Non, c'est Annie Dupéret.
Dupéret.
Connue notamment pour le rôle de Catherine Beaumont dans la série TF1 Une famille formidable. La famille qui, pour résumer de façon succincte, se découvre un enfant caché à chaque épisode, mais finit toujours, avant le générique final, par manger du coq au vin et un pâté de campagne
au
dans
Portugal.
Les cuisines d'un restaurant que le père vient d'acheter à bas prix. Effectivement, et puis né un 28 juin 1712, vous le disiez, effectivement, Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des Lumières, qu'on cite toujours dans nos copies de philo au bac, sans trop savoir pourquoi. Mes citations préférées, puisque vous insistez, l'adversité sans doute est un grand maître, mais ce maître fait payer cher ses leçons. Ou encore, le plus malheureux effet de la politesse d'usage est d'enseigner l'art de se passer des vertus qu'elle imite. C'est sublime, Céline.
J'ai rien compris. Autant je peux écouter.
Fantastique, vous écoutez. L'émission à l'intersection de l'info, du rire et de la bonne humeur. Ouh.
On dirait qu'on est vendredi.
Mais nous sommes vendredi, ah, Céline. Ça. Pour une fois, vous avez bon. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le vendredi 28 juin. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 28 juin, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Une vague de chaleur record des départements en vigilance rouge du jamais vu. Les thermomètres pourraient atteindre aujourd'hui dans le sud-est des températures jamais connues en France métropolitaine. Un enfant de 6 ans hospitalisé dans un état grave hier à Saint-Denis. Il a été lourdement blessé par la pression de l'eau lors de l'ouverture d'une bouche à incendie. Les autorités alertent sur la dangerosité de cette pratique fréquente lors des canicules. Et puis on devrait flirter avec les 30 degrés ce soir, 21h au Parc des Princes à Paris, à l'heure du coup d'envoi de France-États-Unis pour une place en demi-finale du Mondial. Immense rendez-vous pour les footballeuses françaises et soirée spéciale sur Europe 1 dès 17h.
Europe 1.
44,1 degrés, la température la plus forte jamais enregistrée en France métropolitaine. C'était en août 2003 dans le Gard. Eh bien, ce record pourrait être battu aujourd'hui, peut-être dans l'un des 4 départements classés en alerte rouge canicule, une première depuis l'instauration de la mesure en 2004. On attend jusqu'à 45 degrés dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Gard. La ministre Agnès Buzyn est attendue aujourd'hui dans ces deux derniers départements. 76 autres départements restent par ailleurs en vigilance orange. Les autorités alertent sur la nécessité de se baigner baigner dans des endroits autorisés. 4 personnes sont décédées par noyade depuis lundi. Autre pratique dangereuse, l'ouverture des bouches à incendie. Un garçonnet de 6 ans se trouve ce matin hospitalisé dans un état grave. Hier à Saint-Denis, près de Paris, il a été projeté à plusieurs mètres de hauteur par la pression de l'eau avant de lourdement retomber sur le sol. Le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, dénonce les ouvertures intempestives des bouches à incendie.
Depuis le 1er juin, c'est 25 ouvertures que l'on a eues sur la ville. Alors certes, on est dans un moment de canicule, mais ça ne peut pas être une raison pour, je le dis, ouvrir les bouches à incendie. C'est excessivement dangereux. Dangereux parce que des vies humaines peuvent être mises en jeu, mais aussi dangereux parce que la première mission des bouches à incendie, c'est de permettre aux pompiers d'éteindre les incendies lorsque cela est nécessaire. Et lorsqu'une bouche est ouverte, la diminution du flux d'eau fait que c'est impossible pour les pompiers d'agir dans ce cas-là. Et il n'y aurait rien de plus dramatique aussi qu'on ait un incendie qui ne puisse pas être éteint, sans compter les risques d'électrocution, d'inondation. Donc voilà, c'est surtout rappeler que c'est excessivement dangereux. Malheureusement, ce terrible accident nous le rappelle trop tristement. Et bien sûr, une grande pensée à la famille. Je n'ose pas imaginer dans quel état doivent être malheureusement les parents.
Des propos recueillis par Pierre Herbulot. En raison du risque de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est maintenue aujourd'hui à Paris, Lyon et Marseille. Et demain, le mercure va grimper encore, notamment au nord de la Seine, 38-39 degrés à Paris, 34 à Lille. Il faudra attendre dimanche pour une baisse.
Europe 1, il est 5h03.
À Brest, l'homme qui a tiré hier notamment sur l'imam de la ville s'est suicidé par balle. Son corps a été retrouvé près de la voiture dans laquelle il avait pris la fuite. Dans une zone aux portes de la ville, il s'agirait d'un jeune homme de 20 ans qui a tiré devant la mosquée sur l'imam et un autre fidèle. Ils ont été blessés à l'abdomen ainsi qu'aux jambes. Hospitalisés, leurs jours ne sont pas en danger.
Jean-Luc Mélenchon sera jugé en correctionnel.
Les 19 et 20 septembre, comme 5 de ses proches, dont Alexis Corbière et Bastien Lachaud, pour les accrochages survenus lors de perquisitions houleuses en octobre dernier dans le cadre notamment de l'enquête sur les comptes de campagne de la France Insoumise. Ils sont poursuivis pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Du remous au MEDEF, certains ne voient pas d'un bon œil l'invitation lancée à Marion Maréchal Le Pen, déjà sous le coup de nombreuses réactions. Après un dîner cette semaine avec des élus des Républicains, l'ancienne députée est cette fois invitée à participer fin août à l'université d'été du MEDEF, au sein duquel on se défend toutefois d'épouser les idées de Marion Maréchal Le Pen. Le reportage d'Anne Lorjumet.
L'invité, c'est irresponsable. Laurence Parisot ne décolère pas. L'ancienne présidente du MEDEF, qui a toujours combattu les idées du Front National, le confie à Europe 1. Ils offrent à Marion Maréchal Le Pen une crédibilité nouvelle sur un plateau d'argent. Du côté de la majorité, les réactions sont également vives. Si le MEDEF confirme cette invitation, ce sera sans moi, assure le député En Marche Roland Lescure. Idem pour sa collègue Olivia Grégoire, qui parle de provocation dangereuse. Mais convier la nièce de Marine Le Pen ne veut pas dire être d'accord avec ses idées, se justifie-t-on au sein de l'organisation patronale. On veut débattre du match progressiste-populiste qui se développe partout en Europe, explique-t-on dans l'entourage de Geoffroy Roux-de-Bézieux. Bernard Tapie a d'ailleurs été convié à la même table ronde que l'ex-député FN du Vaucluse, comme un remake du débat musclé entre l'ancien ministre et Jean-Marie Le Pen. On veut entendre tous les points de vue, assure-t-on d'ailleurs au MEDEF, qui entend brasser large pour son université d'été nouvelle formule. Parmi les 250 personnes sollicitées, on trouve ainsi plusieurs leaders du mouvement des Gilets jaunes. La liste définitive sera arrêtée fin juillet.
Anne-Laure Jumet, ouverture du G20 à Osaka au Japon aujourd'hui, sommet émaillé de tensions sur la question climatique mais aussi par la guerre commerciale Chine-États-Unis.
L'État islamique revendique le double attentat de Tunis.
Ces attaques dirigées contre les forces de police ont fait un mort. Par ailleurs, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, 92 ans, était toujours hier soir hospitalisé dans un état critique, victime d'un grave malaise. Aux États-Unis, le Congrès débloque en urgence plus de 4,5 milliards de dollars pour répondre à la crise migratoire à la frontière mexicaine. L'émotion est forte dans le pays après notamment la publication de la photo des corps d'un père et de sa fillette salvadorien noyés au bord du fleuve Rio Grande. Il tentait de rallier l'Amérique. Et puis c'était cette nuit, toujours aux États-Unis, le premier débat des démocrates pour la présidentielle l'année prochaine. Le vétéran Joe Biden, 76 ans, a tensé Donald Trump, qui a mis, selon lui, je cite, l'Amérique dans une situation horrible.
Et puis Jérôme, on a hâte d'être ce soir, non seulement parce que c'est le week-end, bon, c'est le week-end, c'est vrai que ça nous excite, mais surtout, c'est le match des Bleus.
Bah ouais.
Et oui, on passe au journal des sports. Elles y sont.
Et nous aussi, voilà, nous voilà au matin du tant attendu France-États-Unis pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde féminine de foot en France.
Et là, Céline Dacosta arbore une magnifique écharpe. Magnifique. Et arborer une écharpe par 40 degrés, c'est fort.
Et les lunettes.
Fier d'être bleu. Ça, et des bon. Lunettes de soleil sublimes.
Ces Françaises ambitieuses qui rêvent à domicile d'ouvrir enfin leur palmarès, pour l'instant vierge de tout titre. Les Américaines sont la référence du foot féminin. 3 Coupes du Monde, dont la dernière. Autant dire que la sélectionneuse française Corinne Diacre n'aura nul besoin de se répandre en mots pour motiver ses troupes.
Quand on joue les États-Unis, on n'a pas de pression. C'est pas possible, au contraire, c'est de la motivation supplémentaire. On va affronter la meilleure équipe du monde. Donc, mis à part faire un bon match, c'est la seule pression que l'on a.
Et les Françaises qui avaient perdu contre les Américaines lors de la seule confrontation en Coupe du Monde, c'était au Mondial 2011, défaite 3-1 en demi-finale.
Et les Bleus qui, toute la semaine, ont analysé le jeu des adversaires.
Et surtout, le huitième de finale, lundi, Espagne-États-Unis, ces Espagnols qui avaient bousculé les Américaines, courte victoire 2-1, la capitaine française Amandine Henry. On a retenu plusieurs leçons et elle a bien voulu les dévoiler pour partie.
On va imposer notre jeu, on est consciente, on a vu le match aussi face à l'Espagne. On est conscient de nos qualités, elles ont aussi des défauts qu'il va falloir exploiter, on en est consciente. On est motivé et puis forcément la qualif, il va falloir aller la chercher, elles ne vont pas nous la donner.
Amandine Henry qui sera titulaire ce soir, on devrait voir dans le 11 de départ par ailleurs le retour de Gaëtan Tiné à la place de Viviane Asseilly. France-États-Unis pour une place en demi-finale du Mondial. À vivre en direct et en intégralité sur Europe 1, la soirée spéciale démarre dès 17h avec Mathieu Béliard en direct des abords du Parc des Princes. Et en cas de victoire, les Françaises affronteront mardi prochain en demi-finale les Anglaises. Facile tombeuse hier soir des Norvégiennes 3-0.
Et côté garçon, c'est fini pour les Bleus à l'Euro Espoir en Italie.
Sèchement battu 4-1 en demi-finale par les Espagnols.
Bah, c'est pas ça.
Ben oui. Très bon. Ben oui, mais ils ont...
Non, les... Très bon. Bon, j'irai pas jusque-là. Mais...
Si, c'est très bon.
Oui, c'est
les Espagnols, ils étaient
vraiment
meilleurs.
Vous pensez à l'avenir, vous.
Ils affronteront en finale dimanche les Allemands qui ont de leur côté battu les Romains 4-2.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
18, le nombre de points inscrits hier par la bleue du basket Olivia Epupa, meilleure marqueuse tricolore du premier match de l'Euro en Lettonie, remportée 74-61 face aux Tchèques. Entrée victorieuse dans la compétition pour les Françaises vice-championnes d'Europe en titre. Deuxième match du premier tour aujourd'hui, 14h30, France-Monténégro.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, vous ne supportez plus de voir vos parents prendre toutes leurs photos avec une tablette. À chaque fois qu'ils vous demandent si c'est vous qui avez pris leur Tupperware en Pyrex, vous avez envie de leur répondre.
Tu vas la fermer ta grande gueule.
On ne change pas sa famille, mais on peut changer de vie. La preuve chaque matin dans Fallait oser, séquence pendant laquelle on donne la parole à celles et ceux qui ont eu la bravoure de repartir à zéro avec succès. Aujourd'hui, je vous présenterai Leïla, ex-directrice opérationnelle dans le secteur de la santé, devenue créatrice d'une épicerie fine en ligne.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Oui, nous allons parler de la météo, mais d'abord j'ai une requête. Comment se fait-il que la Fédération Française de Football ait envoyé à Céline Dacosta de magnifiques t-shirts pour soutenir les Bleus,
BLEUES,
magnifique, avec une très belle
avec
police, alors que moi, personnellement, je n'ai rien reçu. Moi aussi, je suis BLEUES. Céline,
le
il fait très très chaud,
est
un vendredi caniculaire.
Oui, c'est vrai, hein. On devrait encore battre des records de chaleur. Hier, c'était déjà le cas à l'échelle nationale. On peut même dire que c'était la journée la plus chaude en France pour un mois de juin. Aujourd'hui, c'est dans le sud-est principalement que ces records s'établiront, avec une vigilance rouge pour 4 départements, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, où on dépassera les 40 degrés jusqu'à 45 attendus dans le Gard. La moyenne pour le reste du pays, donc une grande partie, dont une grande partie est en vigilance orange, ira de 28 à 39 degrés, un petit peu moins près des côtes de la Manche, où on respire mieux depuis le début de cet épisode caniculaire.
Merci Céline. Anne Le Gall, c'est l'anniversaire
de Jean-Jacques Rousseau.
De Jean-Jacques Rousseau.
309 ans aujourd'hui.
Un concitoyen.
Eh ben,
s'il avait vécu, évidemment, 309 ans, c'est un petit peu long.
Il n'aurait pas pu, techniquement, vous le savez.
Techniquement, je le sais. Donc, nous vous posons cette question. Quelle est votre citation philosophique préférée? Sébastien nous cite du Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Voilà.
Que la raison ignore.
Daki nous parle de philosophe contemporain, Coluche des proches, et nous dit-il, celui qui a la plus belle plume, c'est Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, je ne sais pas si ça marche dans une copie de philo, ce genre de citation.
Oui. Ça dépend
mais
en
nous,
où, mais ça peut
mais
fonctionner.
Nous, on prend. Et nous avons aussi des auditeurs qui nous citent du Raphaël Enthoven, et ses deux règles, comprendre avant de juger et s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir, règle que Stéphane applique tous les jours avec ses candidats.
C'est l'occasion d'embrasser Raphaël. Merci
Exactement.
Beaucoup, Anne Le Gall.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, la tranche info la plus fraîche de la bande FM. L'émission qui vous arrose d'infos, vous éclabousse d'humour et vous asperge de rencontres inspirantes. Et comme tous les matins à la même heure, partons à la rencontre justement de celles et ceux qui un jour ont osé changer de vie. Ce matin, je vous propose le portrait de Leïla Erdmann, 42 ans, elle vit à Aix-en-Provence. Leïla a été directrice d'établissement de santé pendant une quinzaine d'années. À l'âge de 40 ans, elle s'est posé des questions sur son métier, elle voulait plus de sens et de liberté. Elle est devenue chef d'entreprise et a ouvert son épicerie fine en ligne.
Fallait oser.
Et j'ai toujours été très sensible à l'univers des grands chefs, de la gastronomie française. Bon, je suis quelqu'un de plutôt très épicurien, gourmand. J'aime les univers très élégants. J'avais fait le constat qu'il manquait probablement deux choses sur le marché. La réunion des véritables produits d'excellence de la gastronomie française. Le deuxième, c'est l'univers du cadeau et du cadeau d'affaires en particulier. Et donc, j'ai construit mon projet en partant de ces deux aspects qui me semblaient correspondre probablement à une attente des futurs clients.
Leïla a élaboré son concept en 6 mois et a surtout voulu garder son métier jusqu'au lancement de sa plateforme en fin d'année dernière.
Son site, La Maison Française, met en valeur la gastronomie et l'art de vivre. On peut y trouver des produits d'exception qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans, des vins, des confitures, de la vaisselle. Leïla se sent fabuleusement bien depuis qu'elle a fondé ce site.
C'est quelque chose d'exceptionnellement porteur. Voilà, on se révèle, je pense, complètement et puis on peut exprimer avec beaucoup de liberté vraiment sa touche personnelle. Je me sens vraiment très bien. Et puis le développement est au rendez-vous. Fallait oser. Hein.
Fallait oser. Leïla compte même ouvrir une boutique en centre-ville d'Aix-en-Provence. La déclinaison physique de son site haut de gamme.
Et si vous aussi, vous avez changé de vie, écrivez-nous, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui vous évente, éponge votre surplus de sudation sur les tempes et fait glisser un glaçon le long de votre nuque. En effet, il fait...
chaud cacao, chaud chocolat.
Anne, votre modernité me gifle. Béni soit votre rafraîchissant sens de la fête. À suivre, les pots de départ en vacances s'enchaînent et vous ne savez pas comment mettre l'ambiance. Commencez par épater vos collègues autour d'une bonne assiette de curly grâce à Vendredi les bons tuyaux, votre rendez-vous culture et nouvelles technologies au programme, entre autres, 3 produits high-tech à mettre dans votre valise cet été et les sorties BD de la semaine. Et puis, le vendredi, vous le savez, le docteur Ichou lit pour nous un ouvrage santé. Aujourd'hui, il s'intitule « De la joie d'être paresseux », probablement préfacé par Eva Rock. Il est signé Jennifer McCartney.
Mais elle n'est pas française.
Ben vous savez, ça n'empêche pas d'être bien, Anne. Ouvrez-vous un peu. En attendant un peu de musique, il y a quelques années, j'avais demandé à Mathieu Chédid d'écrire pour moi. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voici « Grand petit con », M sur Europe 1.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, je te lave en vous. Vous ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con,
exact,
tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux. Aime du matin au soir. Et surtout n'oublie pas,
c'est toi qui sais quoi.
Quand petit con c'est toi. Quand petit con c'est moi.
C'est toi qui sais quoi.
Quand petit con c'est toi. Quand petit con c'est moi.
c'est moi.
Oui, parce que grand petit con, c'est toi, je trouvais ça un petit peu insultant. C'était M sur Europe 1.
Il est 5h17. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Un enfant de 6 ans toujours hospitalisé dans un état grave hier à Saint-Denis, près de Paris. Il a été lourdement blessé par la pression de l'eau lors de l'ouverture d'une bouche à incendie, projetée à plusieurs mètres de hauteur avant de lourdement retomber sur le sol. La canicule, jour 4, on pourrait battre aujourd'hui le record de chaleur historique en France métropolitaine. Les 44,1 degrés enregistrés en 2003 pourraient être dépassés dans le sud-est, où 4 départements sont en vigilance rouge. Une première, il s'agit du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Gard. 76 autres départements restent par ailleurs en vigilance orange. Enfin, à Brest, l'homme qui a tiré hier notamment sur l'imam de la ville s'est suicidé par balle. Son corps a été retrouvé près de la voiture dans laquelle il avait pris la fuite dans une zone aux portes de la ville. Il s'agirait d'un jeune homme de 20 ans qui a tiré devant la mosquée sur l'imam donc et un autre fidèle. Ils ont été blessés à l'abdomen ainsi qu'aux jambes. Hospitalisés, leurs jours ne sont pas en danger.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 28 juin. Et ma chère Anne, si je vous dis course hippique, tout de suite, là, comme ça, vous pensez à quoi?
Il faut imaginer un énorme éléphant couché sur le côté dans un bain et qui se laisse gratter le dos oreilles avec des écorces de noix de coco.
Nous n'avons pas vu la même course alors. Tout de suite, les pronostics hippiques de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir à Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 302 Hillary Queen. Dans cette course européenne réservée à des juments d'avenir âgés de 4 et 5 ans, c'est la seule Hollandaise à défier 9 Françaises, 4 Italiennes, une Suédoise et une Allemande. Leader incontesté de sa génération chez elle aux Pays-Bas, toutes ses incursions à Vincennes se sont soldées par de très bonnes performances. Sérieuse, maniable et sachant finir ses courses, elle devrait donc pouvoir une nouvelle fois justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 2, Hillary Queen.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et l'heure est venue, d'ouvrir la page la plus intime de notre matinale. Eva Rock ayant déserté les lieux, une chambre à l'appartement s'est libérée. Nous avons donc sous-loué la piole, comme disait les jeunes, à Anne Le Gall, sa digne remplaçante. C'est alors que la température au sein de la colocation s'est mise à grimper. Je ne parle pas seulement des effets de la canicule. En effet, il a suffi de quelques heures à Anne pour mettre le grappin sur Jérôme Lacroix. Et pourtant, je le rappelle, n'est pas une machine à votre disposition, mesdames. Ne sachant pas comment attirer son attention, il se mit d'abord à combler les blancs en lui lisant Science et Vie Junior.
En étudiant la nage des crevettes, on remarque que leurs pattes ne bougent pas simultanément.
C'est embarrassant, Jérôme cachait mal son indifférence. Gégé, vous avez entendu la petite info que vient de vous donner Anne? C'est intéressant, non, Jérôme?
Je pense à ma liste de courses.
Oui, bon, mais comment séduire un homme? C'est la question que Anne se pose, la question que toutes les femmes se sont posées un jour. Je vois, Anne, que vous cherchez l'inspiration dans un magazine féminin. Ça dit quoi?
Prenez un bain moussant et écoutez Barry White.
Oui, moi je me souviens d'un film sur Canal+ qui commençait comme ça aussi. J'imagine, Anne, que vous n'allez pas tomber là-dedans. Cette méthode est parfaitement ringarde. Vous, journaliste de fond, vous qui... vous tombez. Habillez-vous, Anne. Habillez-vous, ça va peut-être un peu trop vite quand même. Jérôme est timide. Anne,
can't get enough of your life, baby.
Oui, alors... Jérôme, je vous en conjure, Anne vous fait un show sexy en jouant avec le rideau de douche. Là, montrez-lui de l'intérêt.
I want you.
Oui, Anne, ça on entend bien. Oui, oui.
Wanna be your dog.
Oui, quand même. Bon, GG, bon sang, réagissez. Si vous n'avez pas percuté là quand même, hein, Céline.
Qui est con.
Oui, bah Jérôme, allez, réagissez.
J'ai bien compris le message.
Ah, bah c'est pas trop tôt. Je préfère jeter un voile pudique sur la scène qui suivit, alors surtout pour ne pas écœurer un peu plus Céline D'Acosta. Ah ouais. Si ça peut vous rassurer, Céline, vous savez, ces choses-là ne sont pas faciles par 40 degrés. Et là, ça a été pour le moins laborieux. Vous confirmez, Jérôme?
62 tentatives au total pour une séance qui a duré 50 minutes.
On salue la performance, mon champion, et on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. L'heure bleue, titre Libération. Avec optimisme, le quotidien assure que les Bleus pourraient ce soir faire basculer la France dans une ferveur rappelant 1998 et 2018. Sur le même thème, c'est la conquête de l'Ouest pour l'équipe et ce sera ce soir ou jamais pour aujourd'hui en France. La chaleur également en une de vos journaux, soulignons celle de la Charente Libre qui a une pensée pour les entreprises de travaux publics en titrant la fournaise des chantiers. C'est vrai qu'on peut penser, on peut penser à eux qui travaillent aujourd'hui. Ça ne va pas être simple. Mais vous, mes sulfureux galopins, qu'avez-vous déniché dans la presse du jour? Anne Le Gall.
Eh bien, puisque nous parlons de chantier de construction, j'ai repéré un article du Figaro qui évoque le succès des constructions en bois. Et ce n'est pas seulement pour les maisons individuelles, mais aussi pour les immeubles, car la plus haute tour résidentielle en bois jamais construite en France va bientôt voir le jour à Strasbourg. Elle comptera
11 étages. Ah ouais. Une autre tour comprenant plus de 100 logements est également en construction à Toulouse. 10 étages cette fois-ci. Et à Gentilly, en région parisienne, c'est une auberge de jeunesse en bois qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ce sont 6% des logements français qui sont construits avec ce matériau. C'est deux fois moins qu'en Allemagne, mais c'est en progression, nous indique cet article du Figaro. Il faut dire que les maisons et les immeubles en bois ont plusieurs avantages. D'abord, ils absorbent du CO2, alors que la fabrication en béton, évidemment, entraîne un mauvais bilan carbone. Les chantiers de construction en bois sont également plus courts. Il faut 18 mois, par exemple, pour construire un immeuble en béton, contre à peine un an pour le même immeuble en bois. Donc ça provoque moins de nuisances pour les riverains. Et ça, c'est un argument qui intéresse les élus.
Est-ce que c'est solide? Parce que si on se réfère à un ouvrage de référence, Les Trois Petits Cochons, la maison de bois n'est pas la plus solide. Ouais. Le loup finit par rentrer.
Ah ouais. Tout est prévu, y compris les normes anti-incendie, évidemment. Et ces chantiers provoquent aussi donc moins de nuisances pour la construction. Le seul frein à la construction en bois, en fait, pour l'instant, c'est son prix, 5 à 15% plus élevé.
Plus
et c'est plus cher. Cela dit, ça devrait changer avec les économies d'échelle si le bois se démocratise. Le paradoxe dans tout ça, c'est quand même que la France a du mal à répondre aux besoins de ce bois de construction. La filière n'est pas structurée. Les entreprises françaises vont se fournir en Allemagne, dans les pays scandinaves et en Autriche également. Et pourtant,
on a beaucoup de forêts en France plus.
Puisqu'on est au 4e rang européen en termes de surface de forêt. C'est dire que nous avons une belle marge de progression sur cette filière.
Une carte à jouer, là. Il y a peut-être un fallait oser de la reconversion dans le bois pour quelqu'un autour de cette table. Suivez mon regard.
Faut penser à la reconversion. Hein.
Oui, j'ai regardé la régie. Je ne sais pas, ils sont en train de trembler. Céline Dacosta.
Alors, on est en pleine canicule, des températures qui dépassaient 40 degrés, des départements vigilance rouge pour la première fois, des records de chaleur battus et les prévisions qui nous disent que ces vagues de chaleur vont être plus fréquentes.
C'est pourquoi vous avez choisi de nous parler de la tartiflette.
Deux à trois fois, exactement. Deux à trois fois plus nombreuses dans les 20 ans à venir. Alors, on réfléchit évidemment à des innovations pour faire baisser la température, notamment en ville. Et certaines de ces innovations sont déjà testées, comme à Toulouse, on utilise des pavés rafraîchissants.
C'est une belle idée.
Aujourd'hui en France qu'on nous en parle. Des pavés sur une zone piétonne de 150 mètres carrés exposée en plein soleil, sans végétation, où normalement la température devrait être au moins de 38 degrés, mais qui, grâce à cette technologie de pavés humides, où des panneaux photovoltaïques déclenchent le dispositif pour créer une évaporation, permet de faire baisser la température ressentie de 5 à 10 degrés. Un système relié à une station météo qui se déclenche automatiquement dès que la température ambiante atteint les 30 degrés. Un système qui est écologique jusqu'au bout, parce que ces pavés utilisent de l'eau, et l'eau est principalement l'eau de pluie récoltée durant l'année. Alors ces pavés un petit peu spéciaux en céramique proviennent du Japon. Cette installation a un coût évidemment à 300 000 euros tout de même. Un système installé à Toulouse depuis 2017 qui est une première en Europe. Il a fallu attendre les grosses chaleurs de 2018 pour le tester. Mais nul doute qu'il tourne à plein régime depuis quelques jours. Nice a déjà commandé ses pavés rafraîchissants. Bordeaux va en équiper les cours d'école. Très bonne idée. À Caen, on développe un pavé à base de coquilles Saint-Jacques totalement recyclé. Oh, ça va. C'est une bonne idée.
Mais rien, je souris la vie, je chante la vie.
Plutôt que d'en faire des cendriers, vous voyez ce que je veux dire. Et de son côté, Toulouse, encore, réfléchit à des solutions complémentaires pour lutter contre les îlots de chaleur. Alors en ville, d'après vous, il y en a deux principales, les deux solutions. La végétalisation, évidemment, ça c'est compliqué. Et la peinture des façades en blanc. Les façades, et pourquoi pas les toits. J'ai lu sur geo.fr qu'en Grèce, on le fait depuis longtemps.
Ah oui, les toits en blanc, c'est pas
la peinture blanche peut réduire la température du toit jusqu'à 30 degrés et donc faire chuter la température intérieure d'un bâtiment d'environ 7 degrés. Donc c'est pas négligeable. Les pavés rafraîchissants toulousains, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France, c'est une bonne idée. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir trouver d'autres innovations de ce type pour lutter dans les années à venir contre ce réchauffement climatique.
Très certainement, Céline. On vous remercie. Jérôme Lacroix.
Un papier dans Marianne qui met en scène ce matin le choc des titans. À ma droite, Netflix, géant du streaming, maître sans partage depuis 12 ans de la vidéo à la demande. À ma gauche, ambitieux challenger, Disney, on vous en a déjà parlé dans le pressing. Disney qui lance une plateforme de vidéos sur abonnement, ça débarque le 12 novembre aux États-Unis pour au moins au début moins de 7 dollars par mois. Pour la France, ce sera 2020. Alors ça va s'appeler Disney Plus et son pari, nous dit Marianne ce matin, c'est d'atteindre 90 millions de foyers dans le monde d'ici 5 ans. Pour info, Netflix pour l'instant, c'est environ 150 millions d'abonnements. Et Marianne de poser la question, Disney va-t-il faire vaciller Netflix? Parce que Disney promet de mettre à disposition l'ensemble de son fonds cinématographique à portée de clic. Les films Pixar, Les Indestructibles, Cars, Toy Story, Monstres et compagnie, etc. Tous les films Star Wars, tous les films de héros Marvel, plus des documentaires de National Geographic. Mais un professeur spécialiste de l'économie des médias tempère dans Marianne. À grand coup de com, il raconte « Netflix est parvenu à associer sa propre image à une offre censée être pléthorique », explique-t-il. Du coup, sur le nombre de produits à la demande, Netflix est plutôt protégé. Et en plus, ils ont récemment obtenu les droits de diffusion de séries comme Friends ou The Office. Et en plus, ils avaient anticipé, alors c'est ce qu'on apprend dans le papier notamment, l'offre de Disney pour éviter le court-circuitage. Netflix produit beaucoup de produits audiovisuels. Problème, ça coûte cher. La dette de Netflix s'élève, nous dit ce matin Marianne, à plus de 10 milliards de dollars. Mais Disney aussi a bien l'intention de produire. Le groupe annonce 10 longs métrages, 25 séries originales, notamment des séries dérivées des aventures des super-héros Marvel. Alors une différence notable entre Netflix et Disney, raconte dans l'article un journaliste spécialisé, c'est le financement. Disney jouit des moyens phénoménaux de la maison mère, des revenus qui proviennent des parcs d'attractions, des studios, des produits dérivés. Alors que pour Netflix, eh ben, c'est principalement les abonnements la source de revenus. C'est vrai que là, il y a une grosse différence. Alors, qui sort gagnant de ce choc des titans ? Ben, je vais vous le dire, comme le fait Marianne, ce pourrait être nous, les consommateurs. Parce que la concurrence entre les deux...
Les tarifs d'abonnement.
Alors, d'une part, et d'autre part, ça pourrait amener les deux à se dépasser en termes de production. Toutefois, on est moins gagnant côté portefeuille parce qu'on pourrait être amené à souscrire
aux deux
services, oui. Même si voilà, chacun des deux pourrait coûter un peu moins cher, mais il faudrait quand même souscrire aux deux.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Le pressing referme ses portes et nous sommes toujours, je le rappelle, en période de grosse canicule dans plusieurs régions de France. Anne Le Gall, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de bon sens à nos auditeurs ?
D'aller chercher du bois dans la remise, de retourner sous la couette et de relancer la cheminée.
Merci, pile dedans Anne.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Folle dingo réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo, Céline. 4 départements placés en vigilance rouge canicule pour la première fois.
Oui, depuis que la création de ce système d'alerte existe, c'est la première fois que ça arrive. Les départements en question sont le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Vaucluse. Une vigilance en cours qui devrait s'arrêter ou du moins repasser en orange dès samedi matin et qui implique un pic de chaleur exceptionnel ce vendredi avec des valeurs qui pourraient atteindre les 45 degrés dans le Gard, 42 à 44 degrés pour les autres. Sur le reste de la France, ce sont 67 départements qui sont toujours en vigilance orange canicule, certains en jaune avec une moyenne de 28 à 39 degrés. Il est plus rapide de vous dire ceux qui sont encore en vert, comme le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche, la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Il y fera chaud, mais de façon raisonnable, 26 degrés à Cherbourg, 28 à Lille et 29 à Brest.
Et côté ciel, du soleil,
oui,
j'imagine.
Il est omniprésent. On a juste quelques nuages ce matin sur la façade atlantique. Et puis un petit voile nuageux qui va se centrer sur la basse Normandie et le nord de la région centre cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rafraîchissantes pour narguer la canicule. Tenez, fermez les yeux. Nous sommes à bord d'un fier chalutier dans la mer du Nord. Les embruns glacés caressent nos narines. Dans nos filets, dorades et éperlans s'agitent parmi les bulots bien frais. C'est pas beau ça, Céline ?
Ça fout la germe, les bulots.
Bref, bon, à suivre, j'avais essayé. Vendredi, ouais. Les bons tuyaux, notre séquence culture et high-tech ou comment faire le plein de bonnes idées pour le week-end. On vous dira notamment quels objets connectés embarqués dans sa valise cet été. Et puis...
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau.
Ça pourrait être la devise du docteur Ichou. C'est le message d'un livre qu'il a lu pour nous et qui s'intitule « De la joie d'être paresseux ». J'ai hâte.
Ouais, moi aussi.
Ah oui.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h07, Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce 28 juin 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Encore et toujours cette canicule qui s'aggrave. 4 départements du sud de la France en alerte rouge. Aujourd'hui, les sorties scolaires sont annulées. Le terrorisme refait surface en Tunisie. Un double attentat suicide à Tunis a tué un policier. Revendication de l'État islamique. Et puis c'est le grand jour pour les footballeuses françaises. Elles affrontent les Américaines ce soir pour une place en demi-finale du Mondial. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 17h.
Europe 1.
On n'en a pas encore fini avec la canicule. Aujourd'hui pourrait même être la pire journée avec des températures historiques dans l'Hexagone. La vigilance rouge est déclenchée dans 4 départements du sud-est, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, où le mercure pourrait atteindre des sommets, 42 à 46 degrés à l'ombre. Cette vigilance rouge n'avait jamais été activée. Quelles sont les mesures concrètes, Virginie Salmen ?
Ce sont les préfets qui vont prendre la main dans ces 4 départements et monter des cellules de crise pour cette alerte sanitaire maximale. Les sorties scolaires où les événements festifs sont annulés, sauf s'ils sont prévus dans des lieux frais, plus de sport à l'école jusqu'à nouvel ordre. Pour la première fois, une ministre autorise les parents d'élèves à ne pas amener leurs enfants à l'école aujourd'hui, après avoir prévenu l'établissement. Les maires sont appelés à continuer leur accompagnement de terrain des personnes fragiles, inscrites sur les registres communaux, et à mettre en place, si possible, des navettes pour leur donner un accès quotidien à l'eau et aux salles rafraîchies. Même les personnes en bonne santé doivent absolument éviter de pratiquer une activité physique ou sportive aujourd'hui dans ces départements. Arrêter de faire du jogging ou du vélo à 14h, ne serait-ce que pour ne pas donner du travail supplémentaire aux pompiers et aux médecins. Voilà en substance l'appel d'Agnès Buzyn. Le risque pour n'importe quelle personne, c'est de faire monter sa température corporelle de manière incontrôlable et de provoquer un accident cardiaque. Cette semaine, un cycliste est décédé de cette façon dans le Vaucluse. Vigilance encore, la nuit la plus chaude n'est pas passée. Ce sera la nuit prochaine.
Virginie Salmen, 76 autres départements restent en vigilance orange canicule. Première victime, une automobiliste de 80 ans et un ouvrier du bâtiment de 37 ans sont décédés hier à Cernay dans le Haut-Rhin à la suite de malaise. Deux personnes se sont noyées dans l'Hérault, un retraité à 7 et une jeune femme à Brissac près de Montpellier. Puis hier soir à Saint-Denis, en banlieue parisienne, un petit garçon de 6 ans de nationalité syrienne a été grièvement blessé par l'ouverture d'une bouche à incendie. Il a été projeté en l'air avant de retomber lourdement. Et puis la SNCF conseille de reporter ou d'annuler les déplacements dans les zones touchées par le pic de canicule aujourd'hui. Tous les billets TGV et intercités pourront être remboursés ou échangés sans frais jusqu'à dimanche.
Rappel des 5h33.
Le groupe État islamique revendique le double attentat de Tunis contre les forces de sécurité.
Oui, à quelques jours du coup d'envoi de la saison touristique, cet attentat kamikaze a fait un mort, un policier, en plus des deux terroristes et 8 blessés en plein centre de la capitale tunisienne. Dans le même temps, le président Essebsi, âgé de 92 ans, a fait un grave malaise. Il est dans un état critique. Le pays n'aborde donc pas les législatives et présidentielles de l'automne dans la plus grande sérénité. Jean-Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tunis.
L'avenue Bourguiba est comme assommée. D'ordinaire si vivante, elle semble étouffée par les barrières de sécurité qui verrouillent le quartier après l'attentat. Annie regarde des terrasses clairsemées et se dit que les terroristes ont envoyé un message pour critiquer le pouvoir.
Qu'ils sont incapables de défendre le pays et peut-être incapables de nous protéger. Ils n'arrivent pas à protéger les gens, donc il faut se débarrasser d'eux.
De quoi peser sur les scrutins de l'automne, à moins que les couteaux ne soient déjà en train de s'aiguiser. Avec le président Essebsi à l'hôpital, ses deux amis n'imaginent pas une campagne dans le calme.
Il y a des gens qui veulent profiter de sa maladie.
Tout le monde veut gagner les élections. Tout le monde va jouer sur ça.
Nous sommes dans une situation très délicate en Tunisie maintenant.
Délicate et floue, si l'hospitalisation dure avec une vacance du pouvoir, c'est à la Cour constitutionnelle de désigner le président par intérim, sauf que cette cour n'a toujours pas été créée. Tunis, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Hier à Brest, un homme a tiré devant une mosquée de la ville. Il a blessé deux personnes, dont l'imam, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'auteur des coups de feu, âgé d'une vingtaine d'années, s'est ensuite suicidé. Il s'agirait d'un déséquilibré qui n'était ni fiché S, ni membre d'un groupe d'extrême droite.
Jean-Claude Roman retrouve la liberté aujourd'hui.
Oui, il vient de passer 26 ans en prison pour avoir tué sa femme, ses deux enfants et ses parents. Une affaire qui avait notamment inspiré le livre et le film L'Adversaire. Âgé de 65 ans, il doit rejoindre un établissement religieux où il sera placé sous surveillance électronique pendant 2 ans. Et puis le sommet du G20 vient de s'ouvrir officiellement à Osaka, au Japon. Les dirigeants des 20 plus grandes puissances de la planète doivent notamment parler commerce et climat. Les regards seront également tournés vers Angela Merkel, qui a été prise d'une nouvelle crise de tremblement hier, ce qui suscite des inquiétudes pour sa santé.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. Plus qu'une journaliste, une ensorceleuse. La Circé des ondes, qui chaque matin durant le 7-9 envoûte littéralement ce pauvre Nikos Aliagas, beaucoup moins imperméable à la tentation que son célèbre aïeul Ulysse. Désormais, quoi que dise Hélène, même absolument n'importe quoi, il trouve ça excitant.
Moi j'adore le ventilo.
Mais quelle voix, Hélène Zelani.
Vous aimez le ventilo? Alors vous allez adorer Jérôme Lacroix, parce que moi aussi j'ai le droit de dire n'importe quoi. Voici le journal des sports. Un précédent qui donne des idées.
Oui, les footballeuses françaises ne peuvent s'empêcher d'y penser. À ce soir de janvier dernier au Havre, elles battaient en match amical les Américaines 3-1. Alors forcément, ce matin, à quelques heures d'un France-États-Unis pour une place en demi-finale du Mondial, eh ben, on y pense tous. Mais la sélectionneuse Corinne Diacre de beaucoup relativiser. En janvier, les Américaines ne sont pas au top de leurs conditions physiques. Elles sont en préparation de pré-saison, mais tout de même, c'est infime, mais ce succès comptera peut-être ce soir, dit-elle.
Ce jour-là, on les a quand même battus. Donc, ça doit être une force, malgré tout, pour nous aujourd'hui, de se dire, ben, rien n'est impossible. Voilà, donc à partir de là, moi j'ai envie de dire, quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capable de les répéter. Donc,
Et ce succès de janvier est l'une des 5 petites victoires bleues obtenues en 25 confrontations face à la nation référence du foot au féminin.
Et ce soir, Jérôme, le Parc des Princes sera plein.
Plus de 45 000 spectateurs, dont 10 000 supporters américains. Les fans français, une force, dit la gardienne française Sarah Boisdi. Le soutien des supporters peut aider à inverser le cours de l'histoire qui place les Bleus en ballotage défavorable.
On est à domicile, donc je pense qu'il reste encore une part de pourcentage où on est favori. Forcément, on est attendu à chaque match, on a envie de bien faire. Voilà, les Américaines, elles sont numéro 1 mondial, elles sont aussi favorites plus que nous, mais je pense que le jour du match, il n'y aura pas de favoris. Il y aura vraiment un match de Coupe du Monde pour pouvoir passer les demi-finales.
France-États-Unis pour une demi-finale, oui, de Coupe du Monde à vivre ce soir sur Europe 1. Soirée spéciale qui démarre dès 17h avec Mathieu Béliard en direct des abords du Parc des Princes. Le gagnant de cette confrontation affrontera mardi prochain en demi-finale les Anglaises. Tombeuse hier des Norvégiennes, 3-0 les garçons et claque de fin pour les Bleus à l'Euro Espoir en Italie. Défaite 4-1 face aux Espagnols. Ces derniers affronteront dimanche en finale les Allemands.
En bref, l'AFLD poursuit Clémence Calvin.
L'agence française de lutte contre le dopage attaque la vice-championne d'Europe française du marathon pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Clémence Calvin, qui a récemment accusé des préleveurs de l'agence de violence lors d'un contrôle fin mars au Maroc. Une version livrée pour se défendre de s'être soustraite à ce contrôle, ce dont elle est soupçonnée, mais ce qu'elle réfute.
Enfin, une imposante personnalité du jour.
Oui, c'est Teddy Riner. Forcément, c'est un gabarit. On connaît la date du retour à la compétition du colosse du judo français, figurez-vous, double champion olympique. Hein. C'est le week-end de la semaine prochaine, meeting de Montréal, 20 mois après son dernier combat. Prochain objectif majeur, les JO de Tokyo l'année prochaine.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et heureusement que c'est Jérôme Lacroix qui présente le journal des sports. Parce que si c'était François Fillon, ça serait beaucoup moins captivant.
Hein, je fais beaucoup de ski.
Oui, non mais...
J'adore le ski.
Oui, oui, on s'en fout, oui.
Mais
oui.
Sinon, à titre personnel, de façon quotidienne, je cours et je fais du vélo.
D'accord. Oui.
Et c'est pour moi le sport ultime.
Merci, monsieur le
c'est le sport qui
le Premier ministre,
me comble le plus.
Oui, alors là, il est 5h39, oui.
L'endurance, le risque, la technique
aussi,
et
tout,
le
oui,
paysage.
Tout le paysage aussi. Oui, oui, bon ben, merci, au revoir, monsieur le Premier ministre.
Europe 1. Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 anti-canicule qui vous réveille avec des chansons de circonstance.
Tombe la neige.
Ah, ça c'est mon choix, la poésie d'Adamo, la classe, la métaphore. Céline, votre chanson pour vous rafraîchir.
Vers ce qu'est ma naissance, regret, un petit pastis bien frais.
Ah oui, oui. Évidemment, ça c'est vous Céline Dacosta. À suivre, gagnez en charisme à la machine à café en épatant vos collègues par votre connaissance sans faille de l'actu culturel, web-série, bande dessinée, objets high-tech. À emporter en vacances. Nos experts vous donnent les dernières tendances dans Vendredi les bons tuyaux. Et puis, comme chaque vendredi, le docteur Ichou a lu pour nous un livre santé qui nous aide à changer nos habitudes. Aujourd'hui, l'ouvrage s'intitule « De la joie d'être paresseux ». Il est signé non pas Paul, mais Jennifer McCartney.
Ça se trouve, c'est sa sœur.
Peut-être, Céline, peut-être, nous verrons.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Et on fait tout de suite un point sur la météo, ma chère Céline. Une journée caniculaire, hein, c'est une journée de tous les records.
Oui, c'est vrai. On va battre encore des records aujourd'hui. La vigilance orange s'est étendue à 67 départements hier après-midi. 4 sont même passés en rouge près de la Méditerranée. Demain samedi devrait encore être une journée très chaude, mais ça va commencer à baisser sur la façade atlantique avec 25 à 30 degrés. Ailleurs, comptez encore 33 à 40 degrés en région parisienne. Ce sera même probablement la journée la plus chaude de la semaine, avec jusqu'à 36 degrés au maximum de la journée. Dimanche, ça va baisser sur l'ouest du pays, 23 à 26 degrés, encore 30 degrés en région parisienne et des pointes à 37 degrés de l'Alsace au Lyonnais, 38 à 39 en moyenne. Vallée du Rhône, on n'est pas encore sorti de l'auberge.
Merci Céline. C'est un anniversaire important aujourd'hui, celui de Jean-Jacques Rousseau.
Voilà,
légal.
Et à cette occasion, nous vous demandons vos citations philosophiques préférées avec le hashtag Europe 1. Emery nous cite « Ne jamais dire jamais ». Voilà, tout simplement. La citation préférée de Patrick, c'est « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ça nous arrange, c'est très bien pour Debout les copains. Nous avons aussi un tweet d'un certain Sébastien B. Je pense que c'est un message de la régie qui nous dit « L'expérience est un peigne que nous donne la vie quand vous êtes devenu chauve. »
Ah oui.
C'est de blier.
Ah, c'est de blier, oui. J'ai cru que c'était de lui-même, en fait.
Ça nous fait méditer. Et Christophe nous a aussi cité un philosophe contemporain. Il nous cite Coluche. On est une bande de jeunes et on se fend la gueule. C'est pas faux.
Ah, ça, c'est beau.
Merci pour vos messages.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
5h42 sur Europe 1, l'heure de notre page santé avec le docteur Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Un suppôt et on lit. Le vendredi, c'est bibliothérapie. On évoque un livre qui parle de santé. Et ce matin, vous êtes venu avec un livre de Jennifer McCartney qui s'intitule « De la joie d'être paresseux » aux éditions Mazarine. L'auteur vante le mérite de la paresse. Elle augmenterait l'espérance de vie dans une société qui nous met sous pression en exigeant sans cesse le dépassement de soi. Alors, quelle est votre analyse, docteur Ichoux ?
Eh bien, l'auteur décrit par le menu une manière d'être qui semble sur le papier très attractive. Son credo, à l'instar de Lech Walesa, ouvrez les guillemets, « Je suis paresseux, mais ce sont les paresseux qui ont inventé la bicyclette parce qu'ils ne voulaient ni marcher ni porter des choses. » Dans la même veine, les dates butoirs ne sont que de simples suggestions. L'auteur prétend que la société nous conditionne à l'effort, à être toujours prêt, toujours en avance et à toujours se surpasser. Elle offre une méthode de développement personnel pour calmer les ambitions et se contenter de la moyenne. Méthode pour ne jamais en faire trop, flâner, vivre à son propre rythme et non à celui que l'on nous impose. Son livre entre vraiment dans la série du développement personnel.
Et Marcel, sur un plan médical, vous en pensez quoi ?
De développement personnel, on a affaire à une utopie. On est contre la guerre, la famine, la pluie, mais il ne suffit pas d'être contre pour s'en débarrasser. En effet, on ne vit pas en dehors d'une société, et même si l'on ne doit pas se soumettre de manière inconditionnelle aux injonctions du bonheur et de la réussite, il n'en reste pas moins que l'homme est un animal social. Le conditionnement social a des répercussions, y compris sur notre biologie et notre état de santé. En fait, pour accéder peut-être au bonheur, mais au moins à un équilibre psychique, on pourrait faire l'éloge du travail et de la rigueur. Vous en êtes tous ici un exemple. Je suis sûr que quand votre réveil sonne à 2h du matin, la seule idée que vous ayez en tête, c'est d'éteindre le réveil et de vous recoucher. Mais vous ne le faites pas. C'est justement parce que votre travail est une source d'épanouissement. À l'encontre de l'auteur, je dirais que s'octroyer des moments de paresse, pour être simple, prendre des vacances, a été une grande victoire de notre société, mais sans effort, sans rigueur, il n'y a aucun épanouissement.
Merci Marcel Ichoux, on se retrouve lundi 5h40 pour un nouveau point santé.
Europe 1,
il est 5h45, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, la rigueur d'un JT d'Anne-Sophie Lapix, la fraîcheur d'une demi-finale d'Interville Bayonne Dax. À suivre, quel BD offrir à votre petit-neveu pour le changer d'Astérix ? Quels objets high-tech géniaux emporter dans votre valise pour les vacances ? Les réponses sont dans Vendredi des bons tuyaux, notre rendez-vous culture et nouvelles technologies. Quand je pense qu'Eva Rock rate tout ça. Et pourquoi ? Et pourquoi pour un trek dans les Alpes de Haute-Provence avec un mec rencontré sur Tinder ? Tout se passe bien, Eva ?
Ce qui se passe au bivouac reste au bivouac.
Bon, elle nous débriefera ça lundi. Pour l'heure, que diriez-vous d'une parenthèse musicale ? Voici Bruno Mars, Locked Out of Heaven sur Europe 1. C'était Bruno Mars, Locked Out of Heaven sur Europe 1. Le Bruno Mars qui a obtenu le label Céline Dacosta du meilleur
Je
concert.
L'adore.
Voilà, on l'embrasse. Il doit être très ému ce matin.
J'espère bien, il est 5h48. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
La canicule, jour 4. On pourrait battre aujourd'hui le record de chaleur historique en France métropolitaine. Les 44,1 degrés enregistrés en 2003 pourraient être dépassés dans le sud-est, où 4 départements sont en vigilance rouge. Une première, il s'agit du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Gard. 76 autres départements restent par ailleurs en vigilance orange. Jean-Luc Mélenchon sera jugé en correctionnel les 19 et 20 septembre, comme 5 de ses proches, dont Alexis Corbière et Bastien Lachaud, pour les accrochages survenus lors de perquisitions en octobre dernier, dans le cadre notamment de l'enquête sur les comptes de campagne de la France Insoumise. Ils sont poursuivis pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Enfin, l'État islamique revendique le double attentat de Tunis. Ces attaques dirigées contre les forces de police ont fait un mort. Par ailleurs, le président tunisien Béji Saïd Essebsi, 92 ans, était toujours hier soir hospitalisé dans un état critique, victime d'un grave malaise.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 28 juin. Et tout de suite, on parle course hippique, une discipline qui divise dans l'équipe, car il semblerait qu'en ces temps de canicule, certains chevaux soient mieux traités que nous.
Je sais qu'il est arrivé à Longchamp dans des conditions optimales grâce aux climatiseurs et brumisateurs pour son protégé.
Il n'y a pas de clim pour les gosses, mais pour les chevaux.
Alors le jour où les gamins remporteront des quintés...
Ah oui, c'est pas faux Céline, ça, c'est pas faux en même temps, vous avez raison. Bonjour José Covès.
Bonjour les amis, ce soir à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes, 16 juventes dans un départ lancé devront parcourir 2100 mètres, grande piste dans cette troisième course, mes 5 préférés. D'abord, le 5 Ferry Wood, irréprochable, elle va de nouveau lutter pour la victoire. Hillary Queen, le 2, s'est déjà imposé sur ce tracé, God Save the Queen. Le 7 Vidéo de Jarry ne cesse de monter dans les tours, c'est un petit bolide. Le 6 Electra Win est superbement engagé. Et la belle italienne Victoria Hope, le numéro 3, ne fait pas le voyage pour rien. Elle nous arrive avec de l'ambition. Pour brouiller les cartes, on peut penser au numéro 1, Fleur de Lys Dello. Elle ne s'avoue jamais vaincue. Et aux deux autres transalpines de talent, le 16 Zoé Griff Italia, présenté par le maestro Jean-Michel Bazir. Et le 14, Vipera Guerre, si on la juge sur ses meilleurs titres. Mon ticket pour la troisième course vers 20h50. D'abord le 5, le 2, le 7, le 6 et le 3. Et ensuite... l'As, le 16 et le 14.
Excusez mon tropisme romantique, José, mais moi je ne vois que la belle italienne Vittoria Oppé, le numéro 3.
C'est vrai que cette Vittoria est belle, elle a de la classe. Cette petite bombe italienne est prête à nous montrer dans la chaleur de la nuit de Vincennes le meilleur d'elle-même, même si je sais, Mathieu, que vous n'êtes pas un homme facile à séduire.
C'est vrai, mais une bombe italienne dans la nuit de Vincennes, ça ne se refuse pas, José.
Il est 5h51.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Anne Le Gall pour les écrans, Clément Le Saff pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour la bande dessinée, le cinéma et globalement tout et n'importe quoi vu qu'en tant que vice-chef adjoint du service, c'est lui qui décide, Mathieu Charrier. Alors, si le professionnalisme de cette alléchante triplette devrait normalement nous fournir une séquence correcte, il faut quand même prévenir nos auditeurs que la canicule n'est pas sans effet sur leur productivité. Déjà lessivé par la pression que je lui ai mis toute l'année en tant que rédactrice en chef adjoint de cette émission, Anne Le Gall... Et pas très en forme.
Je trouve que de toutes les filles, là, pour l'instant, c'est elle qui a le plus morflé. Hein.
Oui, non, mais j'entendais moralement, évidemment, c'est moralement. Avec les premières chaleurs estivales, les hormones de Clément Le Saffre, alias Pépito, bouillonnent. Comme tous les adolescents, c'est le moment de l'année où il découvre son corps, comme on dit.
Bah, tout de suite, il se met à chauffer et on peut le sentir dans sa main.
Oui, bah, vous ne réinventez pas la roue, hein, vous savez, mon petit. Hein. Même Mathieu Charrier, aujourd'hui respectable père de famille et dont le statut prestigieux de vice-chef adjoint délégué du service culture l'oblige à rester motivé pour l'antenne jusqu'au bout. Pas vrai, Mathieu ?
Carrément rien à branler.
Bon, je ne sais plus quoi faire, on commence quand même par vous, hein, Mathieu Charrier. Maintenant. On commence par la bande dessinée. Une bande dessinée où il est question, alors ça c'est un thème un peu rare dans la bande dessinée, d'avortement.
Tout
Mathieu.
À fait.
Ça s'appelle « Il fallait que je vous dise ».
Oui, signé Aude Mermilliot, dans laquelle elle raconte tout simplement son histoire en 2011. Alors qu'elle est serveuse, elle se sépare de son petit ami et enchaîne les conquêtes jusqu'à rencontrer un nouvel homme extraordinaire. Elle pense que lui, peut-être, ce sera le bon, qu'elle va rester avec lui. Mais on est encore loin, vous savez, des discussions autour de la parentalité, même d'ailleurs du désir désir d'avoir un enfant. Sauf qu'elle commence à ressentir des choses étranges dans son corps, une envie de vomir, cette tarte à l'oignon qui ne passe pas, serait-elle enceinte ? Impossible, elle porte un stérilet. Et pourtant, le lendemain, elle fait un test de grossesse et le couperet tombe, car impossible pour elle de garder ce bébé, elle n'a pas l'argent, pas l'envie même, commence alors le long processus d'avortement avec tout ce qu'il implique. Il fallait que je vous le dise, c'est un récit poignant. On voit aussi comment le personnel médical aujourd'hui n'est pas tant à l'écoute que ça. C'est pas facile d'avorter aujourd'hui encore en France, sans même parler, vous savez, des manifestations qui se multiplient un peu partout dans le monde. Voilà, c'est une BD qui n'est pas plombante, hein. Il y a des moments légers, drôles, mais c'est en tout cas une BD utile. Il fallait que je vous le dise, 163 pages, belles et riches, c'est publié chez Casterman.
Et si nous plongeons à présent, Mathieu, dans la détox ?
Ah, qui serait parfait hein, pour vous tous autour de la table, accro à votre téléphone portable. Notre héros, c'est Mathias, directeur d'une entreprise qui achète des boîtes à la dérive, les redresse et les revend. Il vit à 200 à l'heure. Mathias a une femme, deux enfants, une maîtresse, bref, rien d'extraordinaire. Cette maîtresse, elle s'appelle Victoria, c'est par ailleurs son assistante. Il avance et il se pose pas beaucoup de questions. Deux téléphones toujours en main pour être certain de ne rater aucune réunion ou aucun appel. Son médecin a beau lui dire qu'il faut ralentir, il ne l'entend pas ou en tout cas ne l'écoute pas. Jusqu'au jour où Victoria meurt d'un AVC. Mathias est bouleversé, il commence à prendre conscience de son addiction au portable. Il décide alors de suivre un stage de désintox avec une seule règle, assez simple, pas de téléphone. Et ça s'annonce beaucoup plus compliqué qu'imaginé. Ça va aussi faire ressortir pas mal de choses en lui et en nous. Une fois la lecture de ce tome achevé, on n'attend qu'une chose. Le tome 2, ça tombe bien, Détox, c'est publié chez Bambou Édition.
Merci beaucoup Mathieu Charrier pour ce choix BD. On passe aux nouvelles technologies à présent. Clément Le Saffre, les soldes ont commencé, les vacances arrivent. L'occasion de dénicher à moindre prix quelques objets high-tech bien utiles.
Ouais, je vous en ai ramené quelques-uns. Alors l'été, on passe du temps dehors, on profite du soleil entre amis, en famille, dehors, au jardin, à la plage, dans la piscine, en forêt.
En boîte de nuit, on sait, Clément, oui, on se doute.
Donc il n'y a rien de tel. Quand on a été jeune aussi. Tout ça, bah, c'est pour mettre l'ambiance, qu'un peu de musique. Hein. Alors pour ça, le top, bah, c'est l'enceinte portable Wonderboom d'Ultimate Tier. Je vous l'ai ramené. Voilà,
Wonderboom.
Exactement. Ça s'appelle Wonderboom.
Je connais un film qui s'appelait comme ça.
On dirait une Souma.
Et bah, c'est pas une sous-enceinte. Moi, je vous le dis, elle se glisse facilement dans un sac à dos. Elle est ronde, voilà, hyper colorée. Là, j'en ai une toute rouge. Il y a des boutons plus et moins. Elle est vraiment hyper intuitive
les
pour le coup.
Plus et moins.
Ouais. Alors, pour le coup, très simple. Pour dire que c'est fait exprès pour un peu de mal avec la technologie.
Vous voulez dire qu'on peut régler le volume de cette enceinte ?
On peut régler le volume de cette enceinte facilement.
En fait, 2019 est plein de surprises.
Ce qui est cool, c'est que elle est petite, mais le son est vraiment très puissant. Et puis, surtout, elle est étanche.
Elle est étanche.
On peut la balancer dans la piscine avec nous comme ça. On peut. Alors, je l'ai mise dans mon lavabo. J'ai pas de piscine chez moi. N'ayant pas de piscine dans mon petit studio, je l'ai mise dans mon lavabo et effectivement, elle ne craint rien. Elle ressort presque sèche. Donc elle coûte 60€ pour la version de base, elle est sortie l'an dernier, et la seconde qui vient de sortir elle cette année coûte 100€, ce qu'elle a de plus sa deuxième version. Ah, c'est oui. Un son qui va à 360 degrés, un mode plein air qui est vachement pratique quand on est dans le jardin, et surtout une meilleure autonomie, 3 heures de plus, ça va jusqu'à 13-14 heures d'autonomie.
Vous êtes passé rapidement là-dessus, mais moi j'ai la chance d'avoir une enceinte qui est 360 degrés, c'est très utile, comme ça tout le monde entend le
exactement.
Son si vous la placez même au centre du jardin, c'est une très bonne idée. Il y a quand même des endroits où on ne peut pas mettre sa musique à fond, Clément.
C'est vrai Mathieu, pourtant bah, vous avez d'excellents goûts musicaux, on le voit tous les matins à l'antenne.
C'est juste, non. C'est juste.
Bon, je vais vous flatter, mais c'est pas vrai, c'est vrai que ça peut gêner les gens quand même.
Quelle ordure ce Clément Le Saffre.
Si vous ne pouvez pas passer de votre enfin, si vous avez besoin forcément de votre musique en vacances, bah, je vous conseille, moi, les écouteurs sans fil Jabra Elite 65T sont des écouteurs donc idéaux quand on voyage. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils isolent vraiment du bruit extérieur. C'est vraiment comme un casque audio, on a vraiment la même sensation d'isolement. Et pourtant, bah, c'est beaucoup plus pratique qu'un casque en été. Un casque à la plage, il fait chaud, c'est lourd, on transpire avec. C'est pas très agréable. Mais les Jabra, eux, ils tiennent très bien dans l'oreille. On peut courir avec, notamment. Et ils coûtent 145 euros. Donc, c'est cher.
Mais vous nous
mais y a une petite boîte qui les recharge. Et ça, c'est bien pratique quand on part en vacances.
C'est très utile. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. Anne Le Gall, les bons tuyaux côté écran. À présent, on parle ce matin d'une recette de couscous boulette et de confidence familiale.
Et oui, imaginez une charmante mamie dans sa cuisine avec trois de ses petits-enfants qui sont devenus ados et jeunes adultes. Ensemble, ils épluchent des légumes, égrènent la semoule, préparent la viande pour le couscous boulette en évoquant l'histoire de ce plat familial dont Mamie Colette connaît les subtilités par cœur.
Mettre les trois oignons, mettre le hachis dans une passoire à pied, saupoudrer de sel, mettre le pain à tremper dans une... Où il est le pain ? Il a disparu.
Là.
Voilà, et Mamie Colette n'est autre que la grand-mère de la réalisatrice Laure Prota, et ce documentaire de 17 minutes est le dernier né d'une série de documentaires courts dans lesquels des réalisateurs du monde entier filment leur grand-mère en train de cuisiner et de se raconter. Car derrière chaque recette de plat familial, il y a forcément des personnages et des souvenirs.
Et donc c'est quoi la différence entre un couscous boulette tunisien et juif ?
Ah, on le fait toutes les semaines, tous les vendredis soirs.
C'est ça, normalement voilà. C'est le plat
du Shabbat.
Voilà.
Mais
non.
Hein ?
Mais oui.
Oui.
Tous les Shabbats, c'est couscous.
Ah oui.
Et mais je savais pas, moi, que vous faisiez le Shabbat toutes les semaines avec le père de papy.
Parce que mon beau-père était très pratiquant.
Voilà, et franchement, rien qu'assister à la préparation de ce fameux couscous boulette et écouter toutes ces histoires, c'est déjà savoureux.
Et cette recette de couscous boulette vient donc compléter d'autres recettes transmises par des grands-mères à travers le monde.
Voilà, parce qu'au-delà de ce documentaire proposé en avant-première sur le site de Télérama, d'autres courts-métrages sont disponibles sur le site Grande Masse Project. Entre le ragoût traditionnel égyptien de Nano, le soufflé au fromage de Yaya, le lait de poule de Mamie Yoda, on se régale de ces souvenirs partagés en famille. À voir donc sur Grande Masse Project et sur Télérama.fr pour retrouver toutes ces grands-mères en cuisine.
Merci beaucoup Anne Le Gall, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera lundi. Tous ces tuyaux si proches, si généreux, si complices.
C'est presque un peu érotique.
J'allais dire c'est beau, mais vous avez tout sali une fois de plus, Mathieu Charrier.
Europe 1. Il est 5h58, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacostel, le journal de 6h de qui ?
Céline Kalman.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.